Donc, vous les recevez ici.
Oui, tout à fait.
Il y a des auditions, il y a une
Oui,
caméra qui est
c'est
là,
ça.
des jouets. Donc, vous les mettez en confiance, puis après, vous leur posez des questions.
Oui, alors, notre principale mission, c'est de vraiment de recueillir la parole de la victime. Donc, avec tout le cérémonial qui permet de pouvoir travailler avec ses enfants et de les rassurer, ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, on leur pose des questions, on essaye de savoir ce qui s'est passé dans les faits, ou savoir aussi quelles ont été leurs émotions au moment des faits et après les faits, ce qui me paraît important. C'est plutôt une prise en charge générale et beaucoup plus globale de la victime. Donc concrètement, on prend une demi-journée par enfant, on les accueille ici avec les parents et on répond à toutes les questions avant nous de poser les questions à l'enfant. Donc la première question qu'ils vont nous poser, c'est combien il va y avoir d'enquêteurs pour parler avec eux. Alors souvent on est deux, hein, on essaye d'être deux parce que c'est plus confortable pour nous. On a aussi parfois la question de savoir si on va être en tenue de gendarme ou si on va être en tenue civile. Alors ça, c'est plutôt des questions posées par les parents plutôt que par l'enfant parce que on s'est rendu compte dans notre expérience que pour un enfant, un gendarme, il est habillé en bleu et que au moins il sait à qui il s'adresse. Donc ça les gêne pas du tout ou voire au contraire ça peut les rassurer. Et puis la question qu'on a à poser aussi, c'est parfois sur le sexe de l'enquêteur. Est-ce que ça va être toujours des filles ou des femmes gendarmes qui vont procéder aux auditions? Et là, on leur dit non, pas forcément. Donc ça va être en tout cas un professionnel. Et que même si c'est un homme qui pose des questions à cet enfant, c'est pas parce que c'est un homme qui va cautionner évidemment les faits qui ont été commis. Et que c'est pas parce que c'est un homme qu'il n'est pas capable d'entendre et qu'il n'est pas professionnel.
Vous êtes formé comment?
On a déjà une formation interne qui est faite par la gendarmerie, qui est une formation sur la psychologie des enfants, sur les techniques d'enquête. Ensuite, on a une formation également sur le protocole des auditions, comment on pose des questions, l'entretien non suggestif, ce qu'il en est, en quoi il consiste. Et ensuite, on a tous des formations soit universitaires, soit on se forme vraiment, on essaye d'avoir une formation locale. Pour ma part, moi j'ai fait un DU de victimologie et de psychopathologie des enfants, ce qui m'aide à aussi comprendre et à améliorer dans nos techniques. Et puis il y a forcément l'expérience, puisque c'est vraiment notre cœur du métier. On voit en moyenne 300 enfants par an. Hein. Ce qui fait que même si tous les cas sont différents, même si l'enfant est toujours unique, on s'améliore dans la technique et on arrive vraiment à être le plus objectif possible.
C'est-à-dire qu'interroger un enfant, c'est un métier. Il faut être formé à ça.
Non seulement il faut être formé, mais il faut toujours travailler dans l'humilité, c'est de se dire qu'on n'obtiendra pas forcément la réponse à nos questions. Ça, c'est compliqué pour un enquêteur. Parce que dans les autres procédures, on arrive souvent à la finalité. Là, pas forcément. C'est-à-dire qu'on a affaire à des enfants qui restent des enfants et qui sont victimes de faits d'agression sexuelle. Ce qui veut dire que parfois, on n'atteint pas notre objectif et à la fin de l'entretien, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc ça, il faut le savoir et il faut vivre avec cet état de fait. Mais en tout cas, il faut être formé, évidemment, et sinon, ça peut être terrible pour l'enfant, parce qu'on peut le conforter dans sa culpabilité et faire des dégâts sur cet enfant, mais aussi au niveau de l'enquête, il faut vraiment rester le moins suggéré de réponse possible, ou du coup, ne jamais suggérer de réponse à l'enfant.
Et c'est ça que les parents ou les adultes ont du mal à faire quand ils interrogent un enfant.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent suggérer sans le vouloir des réponses, et l'enfant va répondre oui ou non simplement parce qu'il pense que c'est la bonne réponse.
Exactement. Au plus on va lui poser des questions, au plus son discours va être altéré ou modifié. Moi, je compare souvent la mémoire de l'enfant, ou en tout cas sa parole, comme une scène de crime. Au plus on va la piétiner, au moins on va avoir des résultats. Et ça, depuis qu'on travaille avec nos collègues gendarmes sur le terrain, qui ont l'habitude de travailler avec nous, ils le savent désormais. Et jamais ils ne vont poser des questions à l'enfant avant que nous, on puisse intervenir.
C'est-à-dire que les parents, il ne faut pas qu'ils cherchent à fouiller. S'ils sont au courant, s'ils ont un doute, s'ils ont une idée, des preuves, s'ils sont témoins ou s'ils entendent quelque chose, il ne faut pas aller trop embêter l'enfant avec des questions.
En tout cas, le moins possible. Par contre, ce qu'il faut, c'est écouter l'enfant et l'entendre. Voilà, ça c'est important parce que plus on lui dit bah, « tu peux me parler », si l'enfant le fait de lui-même et sans qu'on le questionne, bah, c'est important aussi qu'il soit en confiance avec ses parents. Mais il ne faut surtout pas le questionner, en tout cas le laisser sa parole la plus intacte possible pour qu'on puisse travailler après. Mais paradoxalement, les parents ne vont pas forcément questionner parce que c'est terrible aussi d'entendre certaines choses. Et peut-être que l'enfant, pour protéger ses parents, bah, il va avoir tendance à minimiser ou à occulter certains faits.
C'est-à-dire que l'enfant, il a un instinct qui protège aussi ses parents.
Oui.
Et il sait que certaines de ses paroles peuvent blesser ses parents. Il préférera se taire plutôt que de risquer de faire de la peine ou du mal à ses parents.
C'est ça. Et d'ailleurs, ici, dans la technique, dans le protocole qu'on a mis en place ici, jamais les parents ne sont présent avec l'enfant quand il est auditionné. Alors ça aussi, c'est un accompagnement des parents. Hein. On leur explique la technique et on leur dit que c'est plus pour les protéger que l'inverse. C'est-à-dire que dans le cadre de la procédure, s'ils veulent vraiment voir ou entendre ce qui s'est passé, ils auront la possibilité légale de le faire. Mais en tout cas, pas ici et pas sur le moment. Parce que c'est terrible parfois d'avoir des détails de cette histoire. Et c'est vrai que l'enfant, il est attentif au comportement des adultes. Et en tout cas, il va essayer de voir comment on va encaisser tout ce qu'il nous dit. On le voit très bien dans les vidéos quand on les enregistre. Ils vont nous parler de la situation et puis ils vont nous regarder pour savoir comment on réagit. Et c'est là qu'il faut être vraiment neutre et ne pas réagir à ce qu'il va nous dire. Et au contraire, favoriser encore plus sa parole. Moi, je dis toujours, je peux tout entendre. Tu peux y aller, je peux tout entendre. Je suis capable de tout entendre. Et j'essaye de rester le plus neutre possible et en tout cas, ne pas le laisser apparaître mes émotions.
Alors que la plupart des gens n'auront pas cette capacité.
Bien sûr. C'est un métier particulier. C'est vraiment une profession particulière et on peut vraiment faire des dégâts si on ne suit pas ce protocole. Parce que l'enfant va adapter son discours au discours des parents, aux réactions des parents, aux réactions de l'entourage, et parfois au fort questionnement des parents. Et ça peut vraiment faire, faire en sorte qu'une enquête n'aboutisse pas ou que cet enfant ne soit pas cru au final. Ça serait dommage.
Comment est-ce que ça se passe, l'audition d'un enfant ?
Alors, on les auditionne toujours à deux enquêteurs. Donc, un qui va mener l'entretien et l'autre qui va être plus en recul et qui va poser des questions, on va dire, subsidiaires ou à la fin. Donc, celui qui mène l'entretien, la première des questions qu'il va poser à l'enfant, c'est « Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? » Et « Est-ce que tu sais à qui tu parles ?» Alors, première question, est-ce que tu sais à quoi tu parles ? À qui tu parles ? Il va dire un gendarme, d'accord ? Et à quoi ça sert un gendarme ? Et par réflexe, les enfants nous disent, alors quand c'est des tout petits, ils nous disent un gendarme, ça sert à mettre des PV au bord de la route. Donc on lui dit oui, c'est le cas, mais toi tu n'es pas chauffeur, tu ne conduis pas, donc c'est pas pour toi. D'accord ? Deuxième réponse, instinctive, c'est pour attraper les voleurs. Là encore une fois, toi, tu n'es pas un voleur, tu ne conduis pas, donc on n'est pas là pour ça. Et petit à petit, dans le questionnement, on va arriver à faire dire à cet enfant, le gendarme, il est là pour le protéger. Voilà. Donc, on ne va pas commencer l'entretien tant qu'il n'aura pas compris ça, qu'on est là, non pas pour le juger ni le punir, mais vraiment pour le protéger. Une fois qu'on a ça, on a gagné pas mal de choses pour la suite. Deuxième question, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ? Parce qu'on a des enfants qui font l'objet d'un signalement et qui n'ont pas forcément été agressés ou qui n'ont pas forcément des révélations à nous faire. Alors c'est rare, mais ça peut être le cas. Donc on le laisse vraiment nous expliquer, lui, pourquoi il est venu et ce qu'il a à nous dire. Alors, généralement, il a des choses à nous dire et certains enfants vont pouvoir les développer et ont du recul ou peuvent structurer leur discours et nous dire vraiment ce qu'ils ont subi. Et puis, mais pour d'autres, là, ça va être juste un mot ou juste une bride de mots ou une phrase. Et à partir de son récit libre, on va questionner tous les mots et on va essayer de faire en sorte de comprendre que les termes employés par cet enfant correspondent bien à ce qu'on en pense. Je vous donne un exemple. J'ai eu un enfant qui me dit bah, « Je suis là parce que mon papa se promène toujours tout nu. » D'accord ? Tu peux me dire ce que ça veut dire, tout nu ? Et il m'a dit bah, « Tu sais bien, il n'a pas de t-shirt. » Donc lui, dans sa tête, ça voulait dire « torse nu ». Donc, d'où l'importance de re-questionner les termes et qu'il nous explique différemment ce qu'il a voulu dire. Donc là, il me dit « Il n'a pas de t-shirt. » D'accord ? Est-ce qu'en bas, il avait quelque chose ? Oui, il avait un pantalon. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et tout au long de l'entretien, on va questionner tous les termes de l'enfant jusqu'à ce qu'on puisse aboutir à l'acte et qu'il nous explique vraiment l'acte. C'est vraiment ne pas suggérer les réponses à cet enfant et lui laisser le plus possible la parole et que tout vienne de lui. Ce qui est important, c'est de mettre l'agresseur, d'expliquer qui est l'agresseur pour lui, si c'est un adulte, si c'est un enfant, si c'est un homme, si c'est une femme, qui il est aussi par rapport à lui. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille ? Est-ce que lui, il pense qu'il est de la famille ? Parce que si c'est un beau-père, ou si c'est un frère, ou un demi-frère, ou un quasi-frère, comme ils nous disent parfois, c'est important aussi, ça signifie beaucoup de choses. Et puis quand on va arriver par le biais du questionnement sur l'acte, là encore une fois, vraiment lui laisser la possibilité de s'exprimer en toute objectivité et lui poser des questions ensuite particulières ou plus précises sur ce qui s'est passé. Où là, techniquement, on a besoin de savoir s'il y a eu pénétration ou pas, quels ont été les actes, combien de fois, ce qui s'est passé vraiment, ce qu'on l'a obligé à faire. Et avec des enfants qui sont parfois dans l'émotion, donc en essayant de prendre le plus de temps possible pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Et au final, c'est leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand ils ont subi cet acte ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Comment ils voient l'agresseur ? Est-ce qu'ils peuvent exprimer le sentiment de l'agresseur aussi ? Voilà. Et la dernière question qu'on va leur poser, c'est ce qu'ils pensent de la situation et ce qu'ils aimeraient qu'il se passe maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et là, on est surpris de la réponse, que rarement ils nous disent « je veux que l'auteur soit emprisonné, soit puni ». La plupart du temps, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent que ça s'arrête et ils veulent qu'on les croie. Voilà. Et à partir de là, on essaie de les encourager ou de les féliciter d'être venus jusqu'à nous. On leur dit que c'est pas facile, que ça va encore être difficile dans leur parcours parce que c'est pas terminé. Mais qu'en tout cas, ils ont fait ce qu'il fallait et qu'ils vont pouvoir passer à autre chose. En tout cas, c'est le moyen de pouvoir passer à autre chose.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.